La paix soit avec vous. C'est par ce mot, par ses souhaits, que l'évêque ouvre les célébrations qu'il préside. L'évêque ne fait que reprendre ici les souhaits même de Jésus lorsqu'il rencontrait ses disciples après la résurrection. Au cours de toute Eucharistie, au moment de la communion, les célébrants prononcent une prière pour obtenir la paix, et souvent il invite les fidèles à échanger un signe de paix. En fait, ces souhaits, ces prières, rencontrent une connivence étonnante en chacun de nous. La paix est en effet un des désirs les plus profonds de l'humanité. La paix des armes. Nos vieux pays qui ont mené tant et tant de guerres connaissent bien cette paix des armes. Comme l'expression l'indique, les fondements de cette paix, ce sont les armes. Cette paix dure jusqu'à ce que le vaincu se soit redressé, qu'il reprenne la bataille et terrasse à son tour son vainqueur d'hier. Si le temps de cette paix apporte calme et tranquillité, il est bâti sur l'alternance de la domination de l'un sur l'autre, en attendant l'heure où le conflit reprend pour essayer d'inverser l'ordre des dominations. De toute façon, la paix repose ici sur la force. « Si tu veux la paix, prépare la guerre », disaient jadis les anciens Romains. Les armes étant ce qu'elles sont, à savoir le fruit de l'industrie humaine, elles n'ont cessé d'évoluer jusqu'à atteindre ce niveau effroyable qu'est l'armement nucléaire. Ici, plus question d'alternance, plus question de vainqueurs ou de vaincus. Si jamais les conflits éclataient, il n'y aurait vraisemblablement pas de vainqueurs. Voilà pourquoi une nouvelle forme de paix s'installe, fondée sur la menace et sur la peur. Nous avons connu cette paix en Europe pendant plus de 50 ans, mais le bon sens a fait que personne n'a plus osé donner à cette situation le nom de paix. Nous l'avons appelée la guerre froide. C'est plus honnête. La paix des hommes. Voilà la paix telle que les hommes peuvent la bâtir. Pour si misérable qu'elle soit, il nous faut y travailler, mais sans doute avec des armes un peu différentes, et que les mouvements politiques ont du mal à mentionner dans leurs projets parce qu'ils ne font pas recette au niveau des urnes électorales. Une heureuse exception porte cependant des fruits depuis quelques décennies. La force des armes a fait place à une nouvelle dynamique, la réconciliation. De quoi est composée cette réconciliation? Tout d'abord d'une grande lassitude, puis est venu un pardon pour les souffrances que nous nous étions mutuellement infligés dans l'histoire. Enfin, une grande décision, au lieu de nous détruire l'un l'autre, nous avons décidé de construire des choses ensemble, de faire une union européenne. Qui peut nier que cette dynamique est pour beaucoup dans la lente construction de l'Europe unie? Tout le monde sent qu'il y a un immense espoir. Si nous pensons au vrai sacrifice que l'Union nous impose, certes, nous pouvons renâcler, mais si nous envisageons les immenses malheurs que cette union peut nous éviter, et nous a de fait évité certainement, alors nous sommes prêts à marcher de l'avant. Il faut plus de courage et d'énergie pour renoncer à la violence que pour l'exercer. La paix des dieux. Dans notre longue histoire humaine, faite de tant et tant conflits, la paix demeure l'un des plus forts objets de notre désir. Mais tout se passe comme si l'humanité tâtonnait en aveugle, ne sachant trop quel chemin prendre pour aboutir à la paix véritable. Voici soudain un grand ébranlement qui passe presque inaperçu. Dieu vient de se faire homme, est sur son berceau et proclame la paix donnée par Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qu'il aime. Tout se passe comme si la véritable gloire de Dieu était la paix qu'il veut donner aux hommes. Nous apprenons par cette révélation combien l'humanité, mais aussi le cosmos entier, se trouve pris dans les filets du mal. L'homme a beau se débattre, il se trouve toujours vaincu par le mal, car c'est son cœur même que le mal habite. Le seul qui puisse terrasser le mal n'est autre que Dieu lui-même. Aussi vient-il en personne l'affronter sur notre terrain. Dans un premier temps, le Fils de Dieu est vaincu par le mal sur la croix, mais 3 jours après, Jésus ressuscite de la mort et annonce le triomphe sur toute mort, sur toute division, sur tout conflit. Voilà les dons que le ressuscité veut faire aux hommes. Il les redit à l'envi à ses disciples. La paix soit avec vous. Nous qui avons la chance de croire au ressuscité, il nous est également donné de croire en sa paix. Une condition à cela, marcher comme il le fit sur nos routes humaines. Travailler de tous nos moyens, comme il le fit, à la paix entre les hommes, avec les outils qu'il employa lui-même et que sont la justice, l'amour et le pardon. Aucun échec de nos efforts ne peut nous détourner du but et de l'espérance. Nos efforts de paix à tous les niveaux où s'exerce notre vie seront la preuve que nous croyons vraiment en la paix de Dieu. Notre foi nous assure que c'est la paix qui triomphera au jour de la résurrection. Nos petites réussites, nous les vivrons comme des véritables paraboles de la paix définitive qui nous sera donnée par Dieu. La paix entre les hommes. Des événements récents nous montrent que la paix ne règne pas encore dans le monde. Plus près de nous, conflits des clochers ou malaises des banlieues sont aussi des signes de la difficulté de vivre en communauté. Dans ce monde qui change de plus en plus vite, mais qui est aussi chargé d'une longue histoire, que faire chacun à son niveau pour bâtir une paix durable? Un monde qui change. On a craint une troisième guerre mondiale lors de l'explosion de la Yougoslavie. Pourtant, les risques s'étaient éloignés avec la chute du mur de Berlin. De bipolaire, le monde est devenu multipolaire. Même si les USA prédominent, les conflits deviennent locaux, les nationalismes s'exacerbent, des problèmes non réglés ressurgissent. Dans le même temps, l'Europe s'élargit à 25 et s'intègre de plus en plus économiquement, mais aussi politiquement, et fait entendre sa voix dans le monde. Le commerce devient mondial, meilleure transparence, meilleur débouché économique, mais disparité entre les pauvres et riches qui s'accroissent. Le nombre de pays moins avancés s'accroît toujours. Et l'augmentation de la dette des pays pauvres, cumulée avec la difficulté de vendre les matières premières à un prix suffisant, font que ce pays enrichisse plus les pays riches que ceux-ci ne les subventionnent. À l'échelle locale aussi, le monde change. Plus les richesses, plus des moyens de communication, mais des disparités et un individualisme tel que la communication et la solidarité restent difficiles. Paix et non-guerre. Mais où en sommes-nous de cet état de paix? On peut en effet ne pas être en guerre tout en étant loin d'être en paix. Ces deux situations ne sont complémentaires qu'en apparence. Faire la guerre est plus facile qu'être en paix. Il existe un art de la guerre et même de la polémique et la stratégie. En fait, lorsque la guerre s'arrête, la démarche est longue et dure pour retrouver la paix. Il faut reconstruire ce qui a été détruit, à la fois dans les corps et les âmes, puis consolider cette paix. Réhabiliter physiquement des corps meurtris en premier. Convertir une économie de guerre en économie de paix. Reconstruire un état fort, une administration efficace. Éduquer à la paix, car le risque de guerre n'est jamais loin. Autant d'étapes difficiles et nécessaires à ce qu'une paix durable s'instaure et non une simple trêve. Bâtir la paix. À notre place, nous pensons ne pas pouvoir faire grand-chose sur les grands conflits internationaux. À tort peut-être. Les guerres peuvent avoir plusieurs causes. Dictature expansionniste, guerre religieuse ou entre ethnies, conflit de ressources, comment penser résoudre les problèmes du Proche-Orient sans prendre en considération les problèmes de l'eau en Palestine ou du pétrole en Irak. Cette dernière cause se rapproche d'ailleurs des problèmes de développement et des commerces mondiaux. Beaucoup d'auteurs parlent même de synonymie entre paix et développement. Le développement suppose en effet un État fort, soutenant sa population, une société civile également forte, une répartition des richesses équitable, en particulier pour les revenus du travail. En plus du développement économique, la paix permet un développement social, éducatif, culturel, relationnel, qui renforce encore plus la paix. À notre niveau, nous sommes-nous posé la question de notre consommation? Le commerce équitable permet par exemple de mieux rémunérer les produits de base et le travail des producteurs. Le café est l'exemple le plus connu, un des premiers mis en place. Si nous n'avons que peu de moyens d'action sur les premières causes, notre utilisation des ressources énergétiques ou nutritives a une influence faible mais directe sur ces conflits. Notre bulletin de vote ou une participation à des associations de soutien au tiers-monde sont aussi des moyens efficaces d'agir à notre niveau individuel. Plus près de nous, les conflits des clochers ou les problèmes des banlieues seraient grandement atténués avec un peu plus de modération, de tolérance et moins d'individualisme. Ces problèmes, autant internationaux que proches de nous, se rattachent d'ailleurs aux besoins essentiels de l'homme, qu'a bien décrit le psychologue Maslow. Besoins physiologiques d'abord, puis de sécurité, de relations sociales, de considérations et enfin des réalisations personnelles. Ces cinq niveaux sont présents dans tout conflit et lorsqu'une guerre s'arrête, il faut regravir ces échelons un à un. Confiance en l'homme. Parmi toutes nos actions possibles, la plus simple est peut-être de suivre ce que recommandait Jean-Paul II dans son message pour la célébration de la Journée de la paix en 1993. La modération et la simplicité doivent devenir les critères de notre vie quotidienne et de faire confiance en l'homme pour que disparaissent les conflits à leur et leur origine. La paix intérieure. Paix à vous, répète le ressuscité aux disciples. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, avait-il promis avant sa Pâque. Une promesse fiable. Mais Jésus avertissait aussi. N'allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. La vie chrétienne est un combat pour lequel il nous faut endosser l'armure des dieux. L'évocation intérieure de notre expérience passée et présente offre bien des exemples de l'angoisse et du doute qui nous habitent, tout baptisés que nous soyons. Lors d'une décision délicate à prendre, nous voilà habités par toutes sortes de désirs contradictoires, des sentiments violents, effrayés d'avoir à solliciter ou entendre l'avis des autres, aveugles sur nos motivations profondes. Aucun choix ne semble pouvoir nous donner la paix. Un événement extérieur, parfois douloureux, nous perturbe et fait obstacle au projet que nous avions fait, pensons-nous, en soumission à l'Esprit Saint, et nous voilà plongés dans la révolte ou la dépression, en procès avec Dieu, parfois coupés de lui, en quête de sens et de chemin. Un combat intérieur violent nous submerge tout à coup, qui nous fait haïr et refuser les supérieurs ou les prieurs de l'ordre où nous avons été appelés, suspecter la femme choisie des pires intentions à notre égard. Que d'exemples. Nous vivons une histoire bien compliquée. L'engagement heureux avec et pour le Christ fut vécu dans la confiance et l'enthousiasme. Ce sentiment des débuts font place à la désillusion. Les déceptions s'accumulent, ressurgissent des blessures et des amertumes que nous pensions guéries et dépassées. Nous prenons conscience des ambivalences qui ont pu orienter notre vie. Nous étions partis au combat de la vie chrétienne hésitant dans nos choix. Puis peu à peu, nous nous sommes assurés. Et tout à coup, nous réalisons tout ce que, sur moi et idéal du moi, avait dû pu parasiter dans ce choix. Revient alors avec violence tout ce que nous avions refoulé. Faut-il tenir? Faut-il changer? Notre vie intérieure ressemble alors à un champ de bataille. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, celui-là, je le fais, disait saint Paul lui-même. La violence plutôt que la paix semble habiter nos vies. Violence intérieure, violence aussi de l'autre, violence cosmique. La paix offerte par le Christ. La paix dont parle Jésus n'est pas l'absence des passions que peut, par exemple, nous proposer le bouddhisme. Sur les chemins de la paix, le christianisme fait place à l'ascèse. Cependant, celle-ci n'est pas désincarnation ni évasion des événements de la chair, mais apprentissage d'un chemin d'humanité à consentir. Car tout l'enjeu de l'incarnation est bien que la vie du ressuscité, loin de nous faire échapper à notre condition, la pénètre, traverse toute notre épaisseur humaine avec nos lourdeurs, nos angoisses, nos contradictions, nos refus. Saint Ignace, dans l'exercice, nous propose de faire une descente qui, parfois, nous semble vertigineuse au fond de nous-mêmes pour pouvoir, sous les regards de Dieu, nous regarder nous-mêmes en vérité, avec nos richesses et nos pauvretés. Qu'y a-t-il derrière nos réactions impulsives, nos refus d'abandonner une sécurité? La lumière du Christ éclaire nos refus et ouvre un chemin de vie et d'espérance. Saint Ignace de Loyola nous enseigne que la paix du Christ s'apprend. Examen, relecture, prière d'alliance, attention aux motions, mouvements intérieurs qui nous habitent, à ceux de nos actes qui nous conduisent vers la paix ou la tristesse. Indifférence aux choses créées pour préférer en celles-ci la volonté d'amour de Dieu. Car seul l'amour de Dieu en nous permet et peut vraiment solidement fonder la paix. Une école de vie et de paix concrète essentielle. Paul en indique les buts. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne pourra nous séparer de l'amour des dieux. Nous ne sommes pas condamnés à l'alternative entre l'aventure papillonnante et veillotère où nous conduisent nos passions et nos pulsions et les blocages rigides dans des certitudes apprises et des choix d'hier, refus de la vie. Toute crise est occasion de nous laisser creuser en vérité pour accueillir les vivants dans nos morts, les sauveurs dans nos blessures. Peu à peu, nous pouvons mieux faire confiance à la puissance de vie que Dieu déploie dans toute Pâques. Lui qui nous unifie et nous simplifie de crise en crise, nous assure dans la paix. La paix se gagne dans les combats pour la vérité et la vie qui se mènent dans nos chantiers intérieurs. Jésus-Christ, dans son mystère, est présent à nos combats, toujours aimant et toujours sauveur. C'est ce que l'expérience chrétienne nous montre. Peu à peu se fonde une paix solide qui résiste aux aléas parfois douloureux de la vie. Les ressuscités vainquent la mort en vérité. Écoute et humilité. Pour ce chemin, sont seules nécessaires l'humilité de celui qui a toujours à apprendre et l'oreille du disciple qui écoute la parole de Dieu et implore quotidiennement l'esprit de vie. Apprendre à marcher dans l'alliance est le seul vrai chemin de paix, chemin exigeant mais rendu possible par la confiance en Jésus-Christ, Sauveur, et l'attention à l'Esprit Saint, Maître et Donateur de vie. Un des premiers dons reçus par celui qui écoute est que la justice est indispensable à la paix. Une justice au quotidien envers ses proches. Bien des couples se séparent au fond pour des questions de ménage et de vaisselle. Combien de communautés explosent pour des questions de pouvoir. Justice et paix s'embrassent, dit le psaume. Il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais de mettre en pratique l'alliance que Dieu propose en Jésus-Christ. Alors nos maisons sont bâties sur les rocs et notre paix résiste à tous les torrents. Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, prophétise Isaïe. Communion et paix naissent du partage et du service. Les trois marches tant foulées du plaisir, de l'orgueil et du pouvoir ne produisent en réalité que désillusion, désespérance et dureté. Plus les marches étaient hautes et plus la chute est dure. Une autre constatation heureuse sur ce chemin et que le pardon redevient possible en celui qui est miséricorde, qui ouvre les portes d'une réconciliation avec soi, son histoire, les autres. Réconciliation en perspective qui s'invente chaque jour. En conséquence, la vérité est possible dans celui qui est lumière. Pas de paix sans vérité sur soi. Déjà là et pas encore là, cette paix et don du ressuscité, fruit de la vie dans le royaume des dieux. Nous sommes donc en tension entre le déjà-là et le pas encore. Dans le déjà-là, nous goûtons la paix intérieure et nous la reconnaissons comme une pure grâce de Dieu, jusque dans des circonstances difficiles, deuil, renoncement exigeant. dans le pas encore, nous avons à la conquérir, car comme l'univers tout entier, nous gémissons dans la douleur, dans les douleurs de l'enfantement. Et à chaque pas de notre aventure, il nous faut nous rendre capables d'accueillir cette paix qui nous est offerte. C'est le travail de toute une vie. La fausse paix. Pour ne pas entrer en conflit avec leurs enfants, des parents leur permettent n'importe quoi. Ils savent que cette permissivité sera nuisible à leurs enfants, mais ils n'ont pas le courage de dire non. Avec les adolescents, certains parents préfèrent éviter le conflit. Ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est la paix, la tranquillité. Que leur fils ou leur fille passe ses soirées où il voudra. Eux, à la maison, sont en paix. Paix trompeuse, née d'une démission et de la peur de déplaire. Un employé, un cadre, se voit proposer par ses supérieurs hiérarchiques des compromissions malhonnêtes. S'il les accepte, il aura la paix et un avenir assuré. Mais sera-t-il en paix avec son honneur d'homme, avec ses convictions chrétiennes? S'il les refuse, il perd peut-être son emploi et à coup sûr sa tranquillité. Il devra faire preuve de discernement, de courage, peut-être de confiance en Dieu. Voici un couple, apparemment il vit en paix, pas de disputes, pas de reproches, une coexistence harmonieuse. Les paroles et les gestes sont polis, aimables. Mais ce calme résulte d'un étouffement. Chacun garde en lui des griefs, des ressentiments qu'il n'ose pas dire de peur de déclencher un conflit qui pourrait être déchirant. L'harmonie est faite de non-dits. La communion n'est pas vraie. Chacun en a pris son parti et choisi de vivre avec sa frustration. La violence méconnue. Cette attitude est fréquente chez beaucoup de couples et de groupes. Elle exprime la volonté plus ou moins consciente d'ignorer la violence. Or, la violence est une réalité présente en nous. Aucun de nous n'accepte spontanément que l'autre soit différent, possède une part de vérité, mérite que l'on fasse attention à lui, qu'on le respecte. Aucun de nous n'accepte spontanément de partager avec l'autre, de n'être pas jaloux de l'autre, de se réjouir de son bonheur. Dans la Genèse, Yahvé dit à Caïn, « Si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la dominer ? » Le péché fondamental n'est-il pas de traiter mon semblable comme un objet, de lui faire violence pour assouvir mon intérêt, mon plaisir ? La violence habite le cœur de l'homme dès sa naissance. Les causes des conflits sont présentes en toute relation humaine. Vouloir les ignorer, c'est refuser de consentir au réel. La seule attitude vraie est de les accepter, de les analyser sans peur, lucidement, et de dialoguer pour voir comment les supprimer, ou du moins les gérer en sorte que la relation soit vécue d'abord dans la vérité, ensuite avec l'aide de Dieu dans la charité. Aucun de nous n'accepte facilement cette double exigence de vérité et de charité. Chacun de nous est le champ d'un combat entre la chair et l'esprit. La chair me pousse à vivre pour moi, à faire triompher mon égoïsme, mon orgueil. L'esprit est communion et m'invite à faire à l'autre sa place et à m'en rendre capable. Le fruit de l'esprit est la paix. Épître aux Galates 5, 22. La paix, non pas l'absence illusoire de conflit, mais la vie de Dieu en nous, plus forte que toutes les formes de non-communion. La foi chrétienne, la vie avec le Christ Jésus, rend l'homme capable de dépister les fausses paix et de joindre sa liberté à celle de l'Esprit Saint pour construire la paix véritable. Car les chrétiens ne pensent pas que l'homme soit naturellement bon et qu'il suffise de prendre des dispositions sociales, économiques, politiques pour que les nations vivent en paix. Ils ne pensent pas davantage que l'homme soit tout mauvais, irrémédiablement condamné à être victime de ses passions ou à les faire triompher, chacun au détriment des autres. Les chrétiens pensent que l'homme est un mélange de bien et de mal, de bonté et de violence. Cela ne les rend pas pessimistes, car ils savent que le Christ Jésus a choisi d'habiter en tout homme, et que sa mort et sa résurrection les rendent capables de juguler en tout homme les forces de violence et de destruction et de faire triompher les forces des communions grâce à l'Esprit Saint, l'Esprit communion qui lui communique. Le chrétien est un homme lucide, humble et confiant. La fausse paix encore d'un chrétien qui veut pratiquer les exigences de l'Évangile. Il s'est fixé un idéal et un programme précis pour le réaliser. Il estime y être fidèle. Il n'est pas conscient que ce qu'il recherche, c'est sa propre perfection, qu'il s'y emploie avec ses seules forces et pour sa propre satisfaction. Après d'inévitables insuccès et peut-être un profond découragement, il comprendra que sur le chemin de la perfection, la première étape, toujours à recommencer, est de se reconnaître pauvre et d'attendre de Dieu la sainteté qu'il veut donner. Il connaîtra alors la paix véritable promise aux doux et aux humbles et non aux perfectionnistes qui font violence à Dieu et à eux-mêmes. À l'opposé est la paix du serviteur qui a enfoui dans la terre les talents que son maître lui a confiés. Il se croit en paix parce qu'il se conforme à l'image qu'il s'est faite des dieux. Fausse paix de celui qui se dévalorise, méconnaît ses qualités et les grâces des dieux, se persuade qu'il n'est bon à rien, oubliant que Dieu ne lui demande que ce qu'il peut faire tel qu'il est, avec ce qu'il a et ce qu'il n'a pas. Fausse paix cuisine du providentialisme qui attend tout de la providence, sans mettre en œuvre son initiative, sa paix et paresse et mépris du Dieu qui a confié le monde à la responsabilité de l'homme. Fausse paix enfin de l'homme pieux, il prie, il va à la messe le dimanche, il se livre même à diverses dévotions, mais il ferme les yeux sur les besoins et des détresses qui l'entourent. S'il les ouvrait, il perdrait la tranquillité de sa piété. Le cardinal Newman a écrit « Qui est à l'aise n'est pas en sécurité. La fausse paix nous met à l'aise, mais sa sécurité est trompeuse. La véritable paix ne nous met pas à l'aise. Elle est difficile à réaliser, mais c'est elle que le Christ a promise aux hommes de bonne volonté. »